L'homme à l'aise.
Une série d'émissions de Jean Thibault Foultier.
Avec la participation de Émilie Dubois. Émission numéro 1. L'homme à l'aise.
Je tente de divaguer dans mes paroles. Es-tu prêt à divaguer dans ton écoute? Chuang Tzu. Chapitre 1. Être compris.
C'est un pari. Je veux dire, toute parole est un pari. Autrement dit, depuis toutes les apparences qu'elle prend, car on les lui prête, et qu'elle redistribue, car l'on s'y apprête, son assise ne va pas de soi. Ceux qui y sont assujettis à cette parole, les humains, le sont d'être, en toutes circonstances et en tous effets, saisis par son aléatoire. Un aléatoire qui fait des sujets de la parole, les « je », des êtres de vertis « je ». Ils en sont saisis de cette parole, non pas au sens de la comprendre, qui se dirait alors « ils ont saisi la chose ». Non, ils en sont saisis d'y être pris, mais encore de n'y avoir, eux, sur elle, aucune prise. Aucune prise, mais un rapport, celui d'y être compris. L'alternative est alors de déterminer si ce « y être compris » dans la parole laisse augurer qu'ils y soient entendus, ou bien qu'ils y soient effectivement compris. Si l'on considère qu'ils y sont entendus, cela fait déjà réponse. Réponse suspecte, puisque toute réponse est placée sur le versant imaginaire de la complétude. À l'inverse, si l'on considère qu'ils y sont compris dans la parole, la chose est à entendre ici au ras des pâquerettes, c'est-à-dire, à tout le moins, qu'ils y soient pris comme un poisson dans une nasse et que, effectivement, là, pas de réponse, ils ne puissent s'en sortir. C'est à ces différentes modulations du « y être compris » au lieu du « vertige » que je situe l'homme à l'aise, à écrire L majuscule H-O-M-M-A-L-A-I-S-E. Que de la parole, les hommes ne puissent s'en sortir, personne n'a attendu la psychanalyse pour savoir cela. Mais à la différence de qui que ce soit, voire de lui-même, celui qui tient lieu de psychanalyste est situé non pas là où ce savoir se sait, mais précisément par là où ce savoir se sait. En l'occurrence, d'être issu « u », autant qu'issu « ue » d'une certaine ignorance. Autrement dit, un savoir s'originant autant que s'extrayant de cette ignorance. C'est ce qui fait que le psychanalyste est situé au lieu de cette assise aléatoire dont nous parlions plus haut, celle-là même qui, de son labile, le crochette et le fixe à son fauteuil. Pour y revenir un instant, être situé là où ce savoir se sait ne veut pas dire qu'il est de l'ordre d'un savoir en plus. Cela dit qu'il ressort exclusivement de ce qui se soutient, après que durant une psychanalyse, de ce « su », pourrait-on dire, l'on en soit passé par le « dé-su ». Soit un savoir déchu de tout lien de connivence au semblant et faux semblant du semblable, et désormais frappé au coin de l'altérité. Un savoir radicalement autre, dont la frappe, la typographie, à être repéré dans le subreptice de son caractère, est le
« j'ai d'un su »
permettant à
« un sujet »
de la parole de toucher non pas la mise, mais à la mise qu'il aura jusque-là sans y avoir eu accès, sans le savoir consciemment, engagé dans sa propre parole. Ce qui ne veut pas dire qu'il la récupérera à la mise, mais qu'au moins, il aura connaissance de ce qui, jusqu'ici, aura tour à tour motivé, lesté ou bien indexé son propos et que cela lui accordera désormais la possibilité de se positionner en connaissance de cause. À entendre, en connaissance de cause toujours, tu m'intéresses. Un certain savoir, une certaine ignorance, un certain inconscient. Ariwara no Nari Ira n'était pas psychanalyste. il était poète, au Japon du IXe siècle. Et c'est lui qui va nous permettre d'illustrer une expression de ce lien que nous établissons entre la parole, son aléatoire et, parlant de mise, le type de pari qui en résulte dans le champ qui nous intéresse. Parmi ses œuvres, il composa un haïku en l'honneur d'un ministre de son temps. L'exégèse qui en est faite dans le livre où il est présenté, Poème de tous les jours, dit que si, de façon tout à fait conventionnelle, son hommage est introduit par un mot de bon augure, les assistants ont dû se pétrifier d'horreur en entendant ceux qui suivirent, avant que sa ponctuation ne donne son sens à l'ensemble.
Ô fleur de cerisier, tombée en obscure nuée, au point que la vieillesse en perde son chemin.
Peu de choses, apparemment. Mais en réalité, l'auteur aura joué là sa vie, puisqu'il aurait pu être interrompu et voué aux gémonies séance tenante, du fait de la noirceur des termes utilisés, sans que l'orientation généreuse de l'adresse qu'il faisait à l'homme de pouvoir puisse alors jamais être reçue. Soumission à l'aléatoire, celui du possible de la suspension définitive de la coupure. Aléatoire courant jusqu'au terme de chacune de nos phrases et du procès qui s'y déroule, lequel terme, s'il est atteint, livrera seulement alors l'engagement du sujet qui s'y sera profilé d'y avoir fait face à cet aléatoire, et peut-être même bonne figure. En effet, ce terme atteint, rien n'est jamais moins sûr, permettra le rebours, le retour sur ce qui aura donné à celui qui parle la possibilité de jouer sa note tout du long du propos qu'il aura tenu et qui l'aura soutenu. Risque inouï, bien que paraissant complaisamment toujours aller de soi, de cette note tenue terme à terme. Possiblement, mais sans certitude. Notons, avant d'y revenir ultérieurement, que chacun des deux termes de l'expression « terme à terme » a ici son sens propre l'un par rapport à l'autre. Que ce sens soit celui de « mot » ou bien celui de « fin ».
Chapitre 2. Le scarabée d'or.
Avant d'introduire plus avant dans ce registre de la ponctuation, le terme de l'homme à l'aise qui fait le titre de nos développements du jour, ainsi que ceux à venir pour cette année, nous allons nous arrêter quelques minutes sur une histoire d'Edgar Poe. Cette histoire se nomme « Le scarabée d'or ». Elle va nous permettre de suivre la voie ouverte par Hari Warano Narihira concernant autant, comme nous l'avons vu, le terme du propos que l'à-propos du terme. L'un des personnages de Poe, le chevalier Dupin, intéresse particulièrement les psychanalystes. Que ce soit dans le conte « La lettre volée » ou bien dans celui du double assassinat dans la rue Morgue, il parvient à résoudre des énigmes dans lesquelles, aux yeux des personnes liées par leur trame, lecteur compris, ni l'espace, ni le temps qui situe ces mystères ne semblent receler les coordonnées permettant d'accéder à leur déchiffrage. Dupin, lui, y accède. Et son biais pour ce faire est si singulier que la moindre de ses subtilités est bien plus fine que la plus fine des finesses développées par le héros du conte, le scarabée d'or, William le Grand. Conte dans lequel, précisons-le, Dupin n'apparaît pas. Pourquoi alors, me direz-vous, en passer par une intrigue apparemment ainsi prédévaluée ? Je répondrai tout d'abord, ce dont chacun pourra se rendre compte à sa lecture, que cela n'empêche la haute qualité du raisonnement que Edgar Poe prête à Legrand et le plaisir que l'on peut prendre à le suivre. Mais encore, et surtout, c'est le point à relever, que Poe fait, à qui saura le lire, la démonstration que le véritable fil à suivre, non pas dans, mais par cette histoire, tisse une étoffe d'une autre tenue que le raisonnement qu'il crédite à Legrand pour résoudre l'énigme. je dis que le grain de cette étoffe apparaît comme indépendant du reste du mystère. Elle est autre. C'est d'ailleurs là ce qui d'habitude fait la marque de Dupin, qui est capable de rencontrer et de soutenir cela dans les deux autres contes. C'est également ce qui détermine que, à contrario, la police, c'est-à-dire l'organe figurant pour chacun d'entre nous le lieu de la retenue, de la réflexion contenue, limité d'être orienté, que la police, donc, ne parvienne pas à toucher la chose et à résoudre l'énigme dans aucune des deux autres histoires. Elle ne le peut, car elle est focalisée sur le mystère tel qu'il est censé devoir se présenter. C'est ce qui l'empêche d'accomplir le pas de côté nécessaire, permettant une représentation autre des éléments mis à sa disposition afin de solutionner l'affaire. C'est que, pour la nommer par son nom, la censure qu'incarne la police dans ces histoires n'est somme toute que le porte-drapeau d'une coupure mal dite. Et la malédiction qui s'ensuit est bel et bien, tout simplement, une malédiction. J'ajoute ici, contrairement à la bénédiction que peut être la ponctuation. Pour y revenir à la ponctuation, c'est le pas de côté du jour. William le Grand, le héros du conte, le Scarabée d'Or, n'est donc pas le génial Dupin. Il est un gentilhomme désargenté, et son revers de fortune l'a amené, selon ses vœux, à établir ses bases de peu sur une petite île où chacun des rares habitants fait figure de naufragé de l'existence. Dans ce cadre infernal, accompagné de son domestique et d'un ami faisant office de narrateur, il aura à suivre un fil très particulier, puisque, en dehors du fait qu'il devra lui permettre de résoudre l'énigme, il semble pour lui manifestement vital. Si manifestement vital ce fil, notons-le, que chacun des deux autres protagonistes ne cessera d'une manière ou d'une autre de vouloir l'interrompre, sinon le rompre. Remarque faite pour souligner que l'on ne s'extrait pas sans résistance de la malédiction, puisque bien évidemment, c'est elle qui fait ciment à la moindre communauté. Lorsque le grand aura suivi, à quel prix ? Jusqu'à son terme, le déroulé des actions successives qui lui permettront de recouvrer la fortune et lui rendront son rang, il lui faudra encore expliquer à ses deux compagnons comment, pour cela, il aura eu à déchiffrer sur le parchemin entré en sa possession tel ensemble de signes qui lui auront été révélés dans des conditions en apparence, c'est le mot, en apparence miraculeuse. Un déchiffrement dont chacune des étapes aura été en soi une aventure. Mais une aventure également dans son ensemble pour le grand, qui aura dû supporter de passer pour fou au regard de la parole commune, celle de ses deux compagnons, considérant la sienne soudainement si distordue durant le temps de ses recherches. Notons que c'est le cas durant le temps de toute recherche. Une telle distorsion, torsion du dit, place naturellement ceux qui la soutiennent dans une position de coupable. Et comme chacun le sait,
tout coupable doit être coupé.
Oui, tout coupable doit être coupé. Et nous revenons par là à la coupure, celle soulignée en creux dans le haïku de Ariwara no Narihira. C'est précisément ce point qui aura retenu mon attention dans ce conte d'Edgar Poe, juste après que le grand eut déchiffré le parchemin. En effet, après avoir donc indiqué à son ami et à son serviteur comment il était parvenu à extraire un texte à partir des signes et des chiffres inscrits sur le parchemin, il le leur lit, ce texte, tel qu'il se livre, c'est-à-dire tout à fait incompréhensible et devant lui-même encore être non plus déchiffré, mais abordé d'une certaine façon restant encore à établir pour pouvoir être saisi. Je rajoute « saisi » à défaut d'être compris. Voici le dialogue qui s'établit alors juste après la lecture du texte déchiffré. Le narrateur.
Mais, dis-je, l'énigme me paraît d'une qualité tout aussi désagréable qu'auparavant. Comment peut-on tirer un sens quelconque de tout ce jargon de chaise du diable, de tête de mort et d'hostel de l'évêque ?
Le grand. Je conviens que l'affaire a l'air encore passablement sérieuse quand on y jette un simple coup d'œil. Mon premier soin fut d'essayer de retrouver dans la phrase des divisions naturelles qui étaient dans l'esprit de celui qui l'écrivit.
De la ponctuer, vous voulez dire ?
Quelque chose comme cela. Oui, la ponctuation. Celle qui manque et qui court malgré tout, tout le long du texte mystérieux décrypté par le grand. Voilà l'ultime écueil que devra franchir celui qui voudra découvrir ce qui s'y déroule. En fait, il précise « quelque chose comme cela ». Manière de dire que c'est un cousinage avec ce qui est avancé par son ami. Quelque chose comme la ponctuation. Mais il ne définit pas pour autant ce dont il s'agit, et c'est bien là qu'il n'est pas Dupin. Bon, il en fait toutefois la démonstration en acte, démonstration que je rendrai ainsi. La clé de ce qui se dit ne se livre pas en apprenant à lire entre les lignes, mais entre la ligne. Cela s'obtient en mettant à nu la ponctuation qui, de cette ligne, en livre l'orientation et par là les coordonnées de ce qui s'y recèle. Un trésor de pirate en l'occurrence. Trésor qui pourrait être atteint, c'est la fin de l'histoire de Poe, aura permis de dévoiler le véritable joyau niché en son sein. À savoir, retour au fil qui tisse une étoffe d'une autre tenue que le raisonnement de Legrand pour résoudre l'énigme, à savoir donc que la ponctuation est située en tout lieu de la parole. Et là, c'est le début de toute psychanalyse. Ce que confirme comme une pirouette proche du non-sens, presque détachée du reste du récit, la dernière phrase du conte. Phrase qui semble étonnamment si relative quant à sa portée et tout à fait désinvolte dans sa profération. Je vous laisse la découvrir à lire cette courte histoire, non sans vous livrer de façon allusive, pour en préserver le dénouement, au sujet de cette dernière sentence, prononcée par Legrand, que la mort, elle, ponctuation des ponctuations qu'elle paraît être, semble ne pas compter ses coups au creux du vivant de la parole. Et pour en finir aujourd'hui avec Poe, soulignons que le terme « scarabée », qui donne son titre en langue française à cette nouvelle qui date du XIXe siècle, « Le scarabée d'or », vient de la traduction du titre original qui est « The Gold Bug ». Bug, un terme qui, n'est-ce pas, nous ramène directement à notre époque, où il n'est pour le coup pas associé à la bonne marche des choses. C'est pourtant par lui, par ce terme, que nous allons en revenir au terme à terme, expression dans laquelle, comme dit précédemment, terme prend alternativement l'essence de mot, un mot est un terme, et de fin, le terme est la fin.
Chapitre 3. Le néologisme et l'ailleurs.
L'homme à l'aise soutient le télescopage de ces deux orientations. Le néologisme qu'il est, comme tout néologisme, est un mot relais qui est mot d'époque, c'est-à-dire le représentant d'un temps marqué, que celui soit le temps partagé, celui de la communauté, ou bien celui plus feutré, mais pas moins affirmé, de la singularité. Dans un cas comme dans l'autre, il éclot comme une fleur de lys dont nul ne connaît encore la destinée. Ou bien la marque infamante du galérien, gravée au fer rouge, et qu'il assigne à un statut définitif. Ici, pour le néologisme, ce serait l'oubli. Ou bien, il fera office de passe-muraille, donnant accès à des espaces de langage jusqu'à lui insupportés. Oui, en réalité, toute époque a ses mots, néologisme ou non, qui font actualité. Ici, attention. Il s'agit précisément de ne pas passer à côté du fait que, justement, actualité est un mot d'époque, de la nôtre en l'occurrence. Non qu'il y soit apparu, mais qu'il s'y situe très spécifiquement en en étant autant le fondement que l'incontournable production. Nous passons là du bug au buzz. C'est-à-dire du bug comme ratage qui ouvre pourtant au champ des possibles, au buzz qui en marque la fermeture par la négation revendiquée de l'impossible. Et c'est bien à ce niveau que se déterminent les deux lectures de l'homme à l'aise, au niveau du rapport à l'impossible. L'homme à l'aise de l'actualité, homme très à l'aise, ne tient en effet son identité que de se faire buzzer. Cela dans un circuit qui en réalité n'est ouvert qu'à une chose, la fermeture. Circuit fermé d'où résulte qu'imaginairement, tout est possible. Ce qui mène, c'est le constat, à l'étouffement. Je dis que, au contraire, le discours analytique, lui, permet à l'homme à l'aise, homme à jamais mal à l'aise, d'accéder à un espace de respiration. Respiration, oui, mais conditionné à la reconnaissance de ceci qu'il n'y a pas d'identiquité. Autrement dit, que l'identité en tant qu'être identique à soi-même est un impossible. Cet impossible, ce réel, ne peut être touché qu'à accueillir le bug pour ce qu'il est. C'est-à-dire, pour illustration, notamment le lapsus, l'acte manqué, le rêve, enfin bref, ce qui donne à chacun la possibilité de reconnaître un différentiel à soi-même, d'ouvrir le circuit et d'ainsi pouvoir se mettre en mouvement, c'est-à-dire en parole. Bien entendu, la psychanalyse n'est pas à l'abri de devoir se fermer le circuit de son propre discours. À ce sujet, dans son admirable livre « L'ombre de l'objet, l'inactualité de la psychanalyse », Marie Moscovici cisèle son rendu de la chose. Elle y traduit notamment combien bien des tenants de la psychanalyse, à travers leur volonté de rendre leur pratique toujours plus actuelle, ont contribué à ce qu'elle revienne sur ses élaborations les plus spécifiques, les rogne ou les efface, ce de n'avoir cessé d'accorder sa main aux actualités contingentes des différentes époques qu'elle a traversées. Ce calcul politique n'aura eu en réalité pour effet que de placer la psychanalyse sur le plan peu prisé de prime abord de l'inactualité. Une inactualité, précisons-le à décharge, située au regard de l'actualité actuelle, pourrait-on dire, c'est-à-dire au regard d'une actualité exclusive, donc excluante, qui est censée détenir la traduction univoque de notre époque. La finesse de Marie Moscovici est de démarquer cette inactualité-ci, caractérisée par une errance sans issue, puisque définie par une actualité sans entrée d'être située partout, de la démarquer donc de l'inactualité telle qu'elle devrait être, au contraire, revendiquée. Celle capable de représenter la marque du pérenne que la psychanalyse traduit à travers les époques, et ce, indépendamment des signes aléatoires qui les fondent. D'un mot, ce que je dis être le pérenne de ce à quoi la psychanalyse tient lieu de témoin, voire de relais, a un nom. Et ce nom est inconscient. Où il y a parole, il y a inconscient. Inconscient qui nous fait signe au quotidien par le biais de ces petits éclats brefs, ouverture et fermeture, dits précédemment, à savoir les actes manqués, les lapsus ou bien encore les rêves. Inconscient dont la lecture, tout du long de la durée d'une psychanalyse, se supporte radicalement du transfert, filant sa trame entre l'analyste et l'analysant. Nous retrouvons là le pari qui ouvrait mon intervention d'aujourd'hui, puisque ce qui se gage dans l'espace, jusque-là inouï, du transfert, c'est que cette parole, à la rencontre de laquelle je me figure alors me rendre, fera crédit à ce dont témoigne une expression qui tient en un mot prononcé avec un certain ton.
D'ailleurs.
Expression qui, lorsqu'elle est mise en tête de phrase, vaut alors pour « preuve en est ». Oui. Ainsi disposé, le solde du transfert, qui est l'un des marqueurs de la fin d'une psychanalyse, pourrait être l'investissement d'un ailleurs. Ailleurs avec une majuscule. Investissement d'un ailleurs inscrit au frontispice du moindre espace de parole. La parole est d'ailleurs. Inconscient. Et c'est à soutenir cela que l'on touche à l'inactualité féconde de la psychanalyse, à son pérenne, à sa constance, qui est transcrite sans phare dans le livre de Sigmund Freud, « Malaise dans la culture ». C'est bien entendu à la réponse contemporaine qui est donnée à ce malaise que vient faire écho mon l'omalaise. Nous présenterons le mois prochain cette œuvre de Freud. Je précise, présentation non pas au sens d'y retourner, mais dans celui de la découverte. Cela mérite d'être relevé, car s'il est en effet une chose qui semble aller de soi et faire point de communauté évidente, c'est-à-dire de connivence, c'est bien ceci que Freud serait dépassé depuis longtemps. Il m'apparaît, à l'encontre de ce constat arrangeant, que présenter ici, en 2021, ce qu'il aura avancé au début du XXe siècle, permettra à tout le moins de revenir avec une autre oreille sur les notions de dépassement, de progrès, voire de compréhension, puisque nous l'évoquions à l'entame de notre propos, termes qui apparaissent comme étant les coordonnées incontournables des valeurs actuelles. C'est que, sous couvert de bon sens et au regard du « ça va de soi », poussons même jusqu'aux chiffres qui parlent, comme ça, pas de jaloux, il n'y a pas de place pour l'évidement de l'évidemment. Ce qui est à traduire ainsi, les évidences ne sont jamais évidées. Mot de passe collectif, elles emballent quoi que ce soit de leur poudre de perlimpinpin sémantique, et leurs estampilles silencieuses n'ont pour effet que de souligner la connivence délétère de ceux qui leur délèguent les clés de leur désengagement. En complément de quoi, je peux ici vous faire entendre ce mot d'Antonin Artaud.
L'exercice vrai de l'esprit creuse la vie comme une maladie.
Oui, un siècle après, il est remarquable que Freud puisse ainsi être encore si magnifiquement incompris. Je vais avancer ici ce qui peut apparaître comme une remarque transversale. Comment ne pas être frappé par le fait que le malaise qu'il dévoilait alors est toujours si repérable aujourd'hui dans ceci précis, que la compréhension immédiate, être compris immédiatement par l'autre, n'est-ce pas, s'avance comme la clé résolutive ouvrant toutes les portes du bien-être individuel ou collectif.
Le Graal.
Enfin, le symptôme plutôt. Adhérer à cette croyance, c'est se figurer, comme si cela était possible, être naturellement et sans dommage, de la même chapelle que le langage. Je vous laisse juge, cela notamment à vous reporter sur ce qui a été avancé à l'entame de mon propos d'aujourd'hui, au sujet du fameux « être compris ». Dans ce registre, celui du « être compris par l'autre et dans l'autre du langage », il y a le tableau « Le baiser » de Picasso en 1925, où les deux qui s'embrassent semblent littéralement fusionner, à moins que ce ne soit un qui se divise. Et de là, cette pirouette de Woody Allen.
En amour, l'essentiel est de ne faire qu'un. Oui, mais lequel?
C'est en réponse à cela que le malaise et ce néologisme qui, de l'un à l'autre, risque le va-tout de son assise par l'équivoque de sa portée. Ainsi, je pose la question à nouveau. Le malaise est-il l'homme pris dans le malaise que dit Freud, ou bien est-il détaché de celui-ci? Entravé par le langage comme un poisson pris dans la nasse, ou bien à l'aise avec lui comme un poisson dans l'eau? Eh bien, disons que, à la différence du poisson qui a des ouïes mais n'entend pas, l'homme à l'aise entend, mais qu'il n'ouïe guère. Le silence qui s'ensuit, autant qu'il y précède, se leste d'une parole inaffranchie. C'est-à-dire qu'elle ne le franchit pas, ce silence, du fait de ne pas être validée par la ponctuation évoquée plus haut, celle permettant de repérer ce qui conditionne l'engagement de tout être parlant dans ce qui lui permet de tenir son statut de parlêtre.
Chapitre 4. Du mot de passe aux avenirs de l'homme à l'aise.
C'est ainsi qu'en réponse à cet engagement malaisé, la suspension, qui est du registre de l'imaginaire, est censée remplacer la ponctuation, qui, elle, est du registre du réel. La remplacer en pensant par là faire l'économie de la rencontre de l'homme avec le malaise qui fonde sa condition. De tout temps, il s'est envisagé une solution pour accompagner cette suspension. Une solution que nous pratiquons tous, chacun à sa main, à sa langue, devrais-je dire, solution de franchissement au petit pied qui a pour nom le mot de passe. Retour aux évidences. Oui, le mot de passe, le shibboleth, est un contournement du malaise qui étreint l'homme individuellement ou bien en collectivité. Ce qui est la même chose à partir du moment où il y a langage, puisque je le répète, le langage fait de chaque un de nous des êtres divisés. Nous reviendrons cette année sur cette division. Je l'évoque tout de même d'un mot qui me vient comme cela, et ce mot est refus. Refus du cheval devant la barre, à ceci près que pour l'homme, pour ce qui est du refus, la barre est dans le langage. La barre de la division, bien entendu, à laquelle il ne peut donc se soustraire. Je vais prendre un instant pour évoquer ma première rencontre avec le terme shibboleth. Elle s'est faite par le biais du livre éponyme de Jacques Derrida, un livre qui provoqua bien des sollicitations à mon endroit lorsqu'il y a longtemps de cela, l'on me voyait le lire. Pour l'anecdote, ce mouvement de sollicitation, je le renversai un jour que je me promenais dans les rues de Die, dans la Drôme, et que par la fenêtre, j'aperçus ce livre sur une étagère dans un appartement. J'interpellai à son sujet celui qui habitait le lieu, et nous finîmes par passer un après-midi à broder à partir de l'ouvrage. Je le dis en passant, au même moment, s'il ne fut pas retenu pour devenir le directeur du cinéma local, le Pestel, il obtint le même poste, quelques semaines plus tard, à Fort-Calquier. Venons-en maintenant à l'origine du sens donné à shibboleth. Dans la Bible, le livre des Juges relate comment les Gileadites, après avoir défait les Éphraïmites, mirent au point un indépassable marqueur pour reconnaître ceux de leurs ennemis qui tentaient de s'échapper en traversant le fleuve Jourdain. Ils demandaient en effet à ceux qui venaient à eux de dire le mot « shibboleth ». Alors, immanquablement, ceux d'Éphraïm écorchaient le mot en prononçant « shibboleth », rendant ainsi la sentence de leur propre mort, puisque les Gileadites les égorgeaient alors immédiatement sur les berges du fleuve. Shibboleth est devenu depuis le symbole du mot de passe, quel qu'il soit. Il y a eu depuis de nombreux autres shibboleths. Je retiens celui-ci, qui eut lieu en 1937, à la frontière de la République dominicaine et de Haïti. Le président de la République dominicaine, Rafael Trujillo, craignait d'être renversé par des dominicains en exil aidés par les Haïtiens vivant dans le pays. Il fit alors un discours dans lequel il affirma qu'il fallait urgemment contrevenir aux déprédations multiples et variées causées par les Haïtiens. Le massacre du Persil pouvait commencer. Il fut appelé ainsi, car connaissant l'impossibilité pour les Haïtiens de prononcer le R, les Dominicains leur présentaient une botte de persil en leur demandant de prononcer ce mot. Mot de passe, mot d'impasse, dont la prononciation altérée les dénonçait à leurs bourreaux. Les chiffres avancés depuis, concernant le nombre des Haïtiens qui furent alors tués à la machette, au couteau et à coups de gourdin, oscillent entre 15 000 et 30 000. Il y aurait tant à relater sur l'histoire de cet épisode et tant à dire sur l'un de ses avatars, à savoir le sort des apatrides d'origine haïtienne vivant en République dominicaine. Il faut pourtant choisir pour aller directement dans la direction de ce que peuvent nous livrer les confins de cette abjection. Citons pour ce faire cette phrase extraite du discours prononcé dès les premiers jours du massacre par le président Trujillo à Darabon, ville frontière dont le pont avait été coupé pour empêcher la fuite des Haïtiens. Il y tint, dit-on, ces propos.
Depuis quelques mois, j'ai voyagé et traversé la frontière dans tous les sens des mots.
Ces paroles viennent à point pour ponctuer ce qu'il en est de la traversée du corps par le langage, à partir d'une impossible économie, l'économie de la castration, à laquelle est censé répondre le mot de passe. La visée aberrante du mot de passe, qui n'a pour équivalent véritable dans notre champ que la clé des songes de la pataphysique jungienne, est de penser pouvoir faire main basse sur le signe qui a prise sur le corps pour faire de ce dernier, le corps, le lieu du pas de quartier, soit du corps mis en quartier, ce qui est une définition de l'apartheid. En tout cas, la ligne qui dans cette réalité coupe le corps à coups de couteau ou de machette figure celle d'un langage dans lequel l'on ne peut lire entre la ligne. Ainsi, contrairement à ce que promeut courageusement Poe dans le Scarabée d'or, il n'y aurait pas d'ouverture possible pour les tenants de cette lecture appauvrie, la chose est définitive. Elle est irrémédiable. Irrémédiable vient ici faire résonance au fait que Trujillo avait qualifié sa méthode de remède. Irrémédiable doit donc ici s'entendre en réalité remède du diable. Le remède de ceux qui pensent malgré tout, qui imaginent donc, avoir la main mise sur l'errance du cygne en ce lieu qu'est le corps. Peine perdue, car cette errance qu'ils tentent d'enrayer est la production d'une béance sans origine, sans fin et sans remède. Sauf à considérer, comme une pensée magique, que ce corps, il s'agit non pas de l'accompagner à supporter d'être traversé par le langage, mais qu'il est possible de le prémunir des effets du langage. Ce type de fantaisie se soutient par le biais d'un certain discours, toujours écrit à la hache. C'est cette politique de la maîtrise imaginée qui mène, qui n'y prend garde, de l'illusion du mot de passe au fol silence du passe sans mot. Nous y sommes. Il n'est besoin ni d'être grand clair, ni de conjuguer la chose au futur pour lire ce que cela désigne. Je le répète encore une fois, nous y sommes. Cela veut dire, nous y sommes sommés. Nous verrons dans les développements à venir ce que représente ce signe dont il s'agit de s'affranchir en croyant le maîtriser. Un affranchissement qui nous renvoie à ce qui a déjà été évoqué aujourd'hui, je le répète, un silence mortifère se lestant d'une parole inaffranchie. Une parole qui aura suivi les trois temps que nous avons relevés, celui du mot de passe, celui du mot d'impasse et celui du passe sans mot. S'il est entendu que l'homme à l'aise de l'actualité contemporaine veut s'affranchir des lois du langage, eh bien, il n'a qu'à se pencher sur le sort que Marcel Aimé réserva à son héros Dutilleul, alias Garou-Garou. Soit en lisant son œuvre Passe-Muraille, nous y revenons, soit en se rendant en personne, place Marcel Aimé dans le 18e arrondissement de Paris. Il pourra y voir le corps de Passe-Muraille littéralement encastré.
C'est bien le terme.
Encastré dans le mur qu'il souhaitait éviter, celui du langage. Mur dont le ciment, pour le coup, n'est pas le malentendu, répondant à la malédiction comme le berger à la bergère, mais bel et bien, radical du sujet, la castration. Tel est l'avenir d'une telle illusion. En réponse à quoi, il y a un siècle, le malaise dans la culture de Freud aura posé ce à la rencontre de quoi, par le biais de l'analyse, nous sommes censés nous rendre, comme l'on dit rendre les armes, mais sans que ce ne soit une défaite, loin s'en faut. À savoir ceci, que l'homme à l'aise de la psychanalyse, s'il peut éventuellement évoluer et tirer une ligne satisfaisante de son quotidien, n'en est pas moins, et plus souvent qu'à son tour en tant que psychanalyste, réduit à évoluer dans le registre du malaisé. Oui, une réduction drastique de l'illusion, ce qui n'empêche le rêve, et par là, l'accès au désir.
Alors, ami auditeur, si j'ai tenté de divaguer dans mes paroles, es-tu parvenu à divaguer dans ton écoute ? Rendez-vous est donné dans quelques semaines pour la suite de L'homme à l'aise, une deuxième émission dans laquelle sera présentée une interprétation du livre de Sigmund Freud, Malaise dans la culture. Vous pouvez retrouver l'intervention d'aujourd'hui sur le site de RDWA, rdwa.fr, ainsi que, accompagné de sa version écrite et téléchargeable, sur le site de Jean-Thibault Foultier, tybolt.fr, tybolt.fr. Nous vous laissons maintenant avec Laurie Anderson qui nous interprète « Au Superman ».
Thank you. 'Cause when love is gone, there's always justice. And when justice is gone, there's always force. And when force is gone, there's always mom. Hi, mom. So hold me, mom. In your long arms. So hold me, mom. In your long arms. In your automatic arms. So hold me, mom, in your long arms.